Attaque personnelle, tacle, insulte.
Yeah, there's nothing smart about you, Joe. 47 years, you've done nothing.
Listen, you're the worst president America has ever had. Come on.
Entre Donald Trump et Joe Biden, tous les coups étaient permis.
Hunter got thrown out of the military.
It's not true. It wasn't dishonorable.
Cocaine use.
Will you shut up, man?
Le premier duel télévisé de la campagne a viré à la cacophonie.
Stop. True. Gentlemen, I hate to raise my voice.
Entre deux hommes que tout sépare, a commencé par la gestion de la crise liée à la COVID-19.
Beaucoup de gens sont morts. Et beaucoup d'autres vont mourir, à moins que le président ne devienne plus intelligent.
Le vaccin arrive dans quelques semaines. Nous avons fait un excellent travail.
À chaque attaque, Donald Trump a paré les coups.
Il paye moins d'impôts qu'un instituteur.
Soupçonné d'avoir fraudé le fisc, le milliardaire ne s'est pas démenté.
J'ai payé des millions de dollars d'impôts, des millions d'impôts sur le revenu.
Et l'opposition était encore plus flagrante sur la question des violences raciales.
Avec ce président, nous sommes devenus plus faibles, plus malades, plus pauvres, plus divisés et plus violents.
Donald Trump a refusé de condamner les suprémacistes blancs, notamment les Proud Boys, une milice impliquée dans des heurts avec des manifestants antiracistes.
Je dirais que presque toutes les violences viennent de la gauche, pas de la droite. Proud Boys, reculez et tenez-vous prêts.
À 35 jours de l'élection présidentielle, pourquoi tant de haine entre démocrates et républicains? Le pays de la démocratie peut-il encore se retrouver sur des valeurs communes? Les fractures exacerbées par la campagne peuvent-elles conduire l'Amérique à la guerre civile?
Boulali, y a-t-il un âge limite pour ceux et celles qui veulent devenir président des États-Unis? Jean-Éric Brana, visiblement pas, parce que ni Donald Trump ni Joe Biden sont très jeunes, ils ont tous les deux plus de 70 ans. L'âge avancé des candidats, ça a été un sujet pendant les primaires, notamment vis-à-vis de la santé de Bernie Sanders. Est-ce que c'est encore aujourd'hui une préoccupation pour les électeurs, où c'est passé
Ça fait un moment que c'est un sujet, souvenez-vous, sous Reagan, qui était aussi déjà un sujet et qui s'était adressé à Mondale dans un débat en lui disant « je ne vais pas profiter de la jeunesse et de l'inexpérience de mon adversaire ». Petite pirouette, cette fois-ci, on en a deux. Ça double avec le temps et effectivement, 74 ans pour Donald Trump, 77 ans bien sonné, puisque ce sera le 20 novembre son anniversaire pour Joe Biden, qui en aura donc 78 quand il rentrera en fonction. Puisque moi, je pense qu'il rentrera en fonction, je complétais. Effectivement, oui, c'est un sujet. C'est un sujet dans une démocratie de penser qu'on ne peut pas faire émerger des jeunes pousses.
On peut se poser la question à qui profite le débat. Et nous avons, à propos du ressenti des sondages, éventuellement un chiffre. Quel est le chiffre du jour,
Anne ? Le chiffre du jour, exactement, Elisabeth, 48%. Parce que selon un sondage CBS News YouGov, c'est 48% des Américains interrogé pense que Joe Biden a gagné le débat, c'est-à-dire c'est plus que les 41%, excusez-moi, qui pensent que Donald Trump l'a emporté. Alors on a regardé quand même pour le même premier débat de la présidentielle aux États-Unis il y a 4 ans, 57% estimaient que c'était Hillary Clinton qui avait gagné le débat, donc ça n'est pas forcément traduit dans les urnes. Mais Martin Quincé, qui a gagné, selon vous, ce débat? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire de gagner un débat?
Sachant qu'il sera suivi de deux autres débats avant le scrutin.
Absolument. Non, je pense qu'il faut comparer le débat avec les objectifs de chacun des candidats. Pour les deux candidats, l'objectif n'est pas de convaincre les électeurs de voter pour eux plutôt que pour l'autre candidat. Il n'y aura pas de changement. Quelqu'un qui est décidé pour voter Donald Trump aujourd'hui ne va pas soudainement voter Joe Biden et vice-versa. L'important, c'est de faire en sorte que vos électeurs se déplacent pour aller voter ou en tout cas qu'ils votent par correspondance. Et donc, ce n'est pas fondamentalement la question de savoir qui a gagné entre Donald Trump et Joe Biden. C'est est-ce que Joe Biden a créé un enthousiasme auprès de ses électeurs pour se déplacer? Est-ce que Donald Trump a créé ce même enthousiasme?
Et est-ce le cas alors?
Alors, moi, je pense que Donald Trump a tenté tout le long de faire peur avec Joe Biden, ce qu'il avait réussi à faire avec Hillary Clinton il y a 4 ans. Aujourd'hui, il lie Joe Biden avec un extrémisme de gauche qui pourrait faire peur à son électorat, et c'est sur ça qu'il va baser sa mobilisation.
Il appelle les antifas.
Pour Joe Biden, l'enjeu, c'est qu'il représente le front anti-Trump qui va de la gauche du Parti démocrate, de Bernie Sanders à Alexandria Ocasio-Cortez, à des républicains type Cindy McCain, veuve de John McCain, qui n'ont absolument rien en commun. Créer cette mobilisation pour un front aussi large, c'est très difficile. Moi, j'ai l'impression qu'en sortant du débat, Joe Biden n'a pas forcément créé créé un enthousiasme. Il s'en est sorti parce que finalement l'autre est apparu absolument grotesque. Mais je ne sais pas si les gens qui hésitent entre ne pas voter ou voter Joe Biden vont aller voter à la suite.
C'est convaincu. Jean-Luc Brannin, oui. Ce qui a marqué aussi hier, c'est la violence incroyable du débat. Vous qui suivez les présidentielles américaines depuis un certain temps, est-ce que ça a déjà eu lieu, ce degré de violence ?
D'invective ?
Non. Il y a eu des manifestations qu'on pourrait juger violentes la dernière fois, notamment parce qu'il y avait la présence physique de Donald Trump face à cette femme toute menue et petite à côté de lui. Et on en avait beaucoup parlé. Ça a impressionné beaucoup de monde. Mais en réalité, pas à ce point-là. C'était la cour d'école. C'était un petit peu ce qui s'était passé à la fin du mandat de Joe Biden, son premier discours. Il était revenu sur cette fameuse phrase « Je les prends par là ». Et il avait dit « Moi, j'aurais entendu cette chose-là. Si j'avais été au lycée avec lui, je l'aurais pris derrière le gymnase pour le tabasser. » Eh bien voilà, on était dans le tabassage. C'était assez clairement cette chose-là. Si vous me permettez, moi je pense quand même qu'il s'est passé quelque chose pendant ce débat pour compléter ce que disait Martin. Il faut voir qu'il n'y a pas de campagne. Il n'y a pas de campagne parce qu'il y a une pandémie. Donc l'enjeu était énorme. Et la société, en ce moment, est très divisée.
Enfin, il n'y a pas de campagne. C'est-à-dire Donald Trump se déplace malgré la pandémie et Joe Biden fait une campagne virtuelle par écran.
La dernière fois, c'était des meetings à 30 000 personnes. C'était un barnum terrible, souvenez-vous. On en parlait tout le temps. Cette fois-ci, il n'y a rien. Aucune couverture. L'enjeu était énorme.
Combien de téléspectateurs ? Combien de millions de téléspectateurs ?
On n'a pas encore les chiffres, mais on parlait de 100 millions. C'est-à-dire qu'on aurait explosé le record qui était à 84 millions. C'est ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que Joe Biden, qui n'était pas favori, qui est effectivement le candidat par défaut pour beaucoup, parce que c'est l'anti-Trumpisme qui ferait voter, je crois que ce qui s'est passé cette nuit, c'est que beaucoup l'ont regardé en disant « mais finalement, il est pas sénile, il dort pas, il est bon en débat.
Il a travaillé,
il tient la route.
Il a préparé le débat.
Mais finalement, il est encore bel homme. Regardez. Il a 78 ans. Il a 78 ans. Ça a été un athlète toute sa vie. Oui. Ça se voit. Enfin, il se tenait droit sur scène. Ça veut dire que beaucoup pourraient revisiter leur vote en disant, mais finalement, sa place, il ne l'a pas volée.
Revisiter l'image que Trump donnait de lui depuis des mois et des années.
Sa place, il ne l'a pas volée. Il a sa place en finale. Bon. C'est ce que je voulais dire. Et ça, c'est un vrai changement.
Alors, la gestion de l'épidémie, un point absolument crucial et majeur qui a été nombreuses fois abordé hier soir.
Hier soir, oui, parce que vous le disiez, cette période est évidemment très particulière avec plus de 200 000 morts et au moins 7 millions de cas recensés. Les États-Unis sont, en tout cas en chiffre absolu, la nation la plus touchée par la Covid-19. Et là aussi, le pays apparaît divisé, que ce soit dans la façon dont il est touché par cette crise, comme dans la réponse qui est apportée. Tous les Américains, ça commence à le savoir, tous les Américains, il y a eu des études, ne sont pas égaux face au virus. Le taux de mortalité des Noirs américains est presque deux fois et demi supérieur à celui des Blancs, celui des Latinos et des Natifs amérindiens, une fois et demi plus élevé. Et en plus, dans certains territoires, ces disparités sont encore plus criantes. Par exemple, en Louisiane, 70% des victimes étaient afro-américaines, alors qu'ils ne représentent que 30% de la population de cet État. Alors les chercheurs se sont exprimés, ils expliquent cette vulnérabilité par le fait que ces populations, elles vivent davantage dans des quartiers qui sont surpeuplés, elles ont des métiers qui sont impossibles à exercer en télétravail, ils sont aides-soignants par exemple, chauffeurs de taxi, et puis ils disposent également d'un accès moindre aux services de santé, et division aussi, parce que faute d'une politique sanitaire qui serait celle de Donald Trump, globale, chaque État fait bien comme il veut, et surtout comme il peut. La côte Est, on l'a vu, ils ont très très vite imposé des mesures très strictes, le masque, la distanciation physique, alors que dans le Sud et dans le Centre, on a été beaucoup plus laxiste du côté des autorités. C'est d'ailleurs là qu'on observe aujourd'hui sur la carte des flambées de l'épidémie. Et c'est le masque qui cristallise le mieux cette politisation de l'épidémie. Ce chiffre est assez fou. 97% des démocrates assurent porter un masque et ça tombe à peine 70% chez les républicains. Alors, c'est pas vraiment une surprise, mais c'est parmi les électeurs de Trump qu'on trouve les plus anti-masques, les plus radicaux, parce que lui-même y a été très hostile. Il s'est très longtemps baladé devant les caméras sans masque, alors que Joe Biden, il a dès le début et jusqu'à maintenant porté le masque systématiquement. Sylvie Matelli, on peut préciser qu'en plus, le nombre de victimes américaines pourrait atteindre 410 000 personnes d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire dans 3 mois. Qu'est-ce que ça dit, cette gestion de la crise, dans la façon dont les divisions américaines impactent directement la population, en l'occurrence dans sa chair ?
ça nous dit beaucoup de choses sur les divisions au-delà même de cette seule pandémie, sur la montée des inégalités aux États-Unis et les conséquences que ça a eues. Et ces conséquences, elles sont de toute nature. Et on a l'impression qu'elles explosent aujourd'hui au vu et au su de tout le monde.
On le savait, mais là, aujourd'hui, c'est flagrant.
Tout à fait, tout à fait. Et moi, j'interprète les conséquences de cette montée des inégalités comme c'est les divisions dont on vient de parler, mais également la réaction face à la pandémie et l'exposition des gens face à la pandémie, également dans le racisme, dans la stigmatisation d'un certain nombre de personnes et de classes d'individus aux États-Unis. Donc on s'aperçoit effectivement qu'on arrive un petit peu au bout de ce système avec deux types de réactions par rapport à ça et assez paradoxalement deux types de réactions qui pour le coup peuvent pas être distinguées classe populaire et classe aisée qui sont assez mélangées, vous l'avez dit, sur un clivage plus gauche-droite ou plus démocrate et républicain, c'est-à-dire la réaction qui consiste à dire la seule issue c'est l'issue de la liberté, c'est l'issue du rêve, c'est le rêve américain qui va nous sauver et qui va nous sortir de là, et là on est plutôt du côté de Donald Trump, et puis des gens plus prudents, plus raisonnable, on va dire, et la raison est plutôt du côté de Joe Biden.
Oui, Martin Quincey, on a le sentiment que les États-Unis sont fracturés comme peut-être aucune société, c'est beaucoup dit, on pourrait nous dire que nous aussi, ça, c'est un petit peu archipélisé, mais là, on a le sentiment d'une division extrêmement forte. Est-ce qu'ils ont déjà été dans ce degré de division et de fracture?
Alors, justement, les Américains ont tendance à dire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on annonce tous les 25 ans la fin de l'Empire américain parce que les divisions internes ne permettent pas de continuer. Évidemment, pour eux, les années 70, post-Vietnam, post-Nixon, oui, restent l'exemple même d'une fracture nationale dont ils ont pu se relever. Ce qui est intéressant néanmoins dans ce qu'on a vu hier, c'est que c'est pas simplement une division idéologique, c'est pas simplement une division sur une manière de voir le monde, c'est simplement qu'il n'y a pas un dialogue entre les gens qui ne veulent pas se parler.
Mais d'une certaine manière, c'est la mort du débat démocratique dans ce qui est censé incarner.
Donald Trump ne souhaite pas, en tout cas, avoir ce débat-là. Hier, il n'avait pas l'intention de jouer le jeu du débat. Et ça n'empêche pas ses électeurs de considérer qu'il a raison de jouer cette carte, qu'il est absolument déraisonnable de vouloir débattre avec des démocrates en face de médias qui sont corrompus et qui sont à la botte des idées démocrates. Donc ce sont des gens qui n'ont pas véritablement envie, en janvier prochain, de voir les États-Unis se réunir. Et ce qui était intéressant hier, c'est d'ailleurs que Donald Trump ne fait jamais référence à ce qui se passe après janvier. C'est vraiment
ça s'arrête en novembre.
Joe Biden parle un petit peu de cette période après janvier, du besoin de se réunir, du fait qu'il serait le président et des démocrates et des républicains, ce que évidemment que Donald Trump ne mentionne pas. Ça, c'est très différent. Pour Joe Biden, il y a une inquiétude. Si je suis président, est-ce que je suis le président d'un pays cassé?
Eric Brana, alors Dwayne Johnson dit on a besoin, je cite, d'empathie, de gentillesse, de respect. On trouve rien de tout ça dans l'éthos du débat public et de la société américaine aujourd'hui.
On l'a trouvé hier soir dans le débat. Vous l'avez entendu, je vais encore défendre Joe Biden, mais c'est sa nature. En réalité, ce qu'on retient de Joe Biden, ce qu'on a entendu pendant toute la campagne, c'est c'est un gars bien. C'est quelqu'un de gentil. C'est vrai qu'il a une vie assez particulière, faite de haut et de très bas. C'est quelqu'un qui est dans la résilience, qui correspond à la société américaine d'aujourd'hui, qui a eu des hauts et des très bas et qui a besoin de remonter.
Qui peut réconcilier la société américaine.
C'est ce qu'il compte faire. Son programme, c'est l'unité du pays. Il a réussi à unifier le camp de gauche totalement. Vous n'entendez pas une voix discordante aujourd'hui jusqu'à
l'extrême
gauche.
C'est l'union sacrée. Ce sera l'union sacrée jusqu'au 3 novembre.
C'est le travail qu'il a fait à partir du mois de mars, quand il a fait ses groupes de travail en mettant des doubles présidences avec progressistes et modérés. Il a ensuite tendu la main aux républicains modérés qui l'ont rejoint, comme l'expliquait Martin tout à l'heure. Et il tend désormais la main même aux plus extrémistes en disant, vous savez, la nation, on doit la reconstruire ensemble. Parce que cette crise qui est triple, qui est sanitaire, qui est économique et qui est sociale, on ne peut pas la dépasser avec les divisions qu'il y a aujourd'hui. C'est un terreau mortel.
C'est une quasi-crise morale.
C'est une crise morale, bien sûr.
Faites-nous écouter quelqu'un qui est une sorte de pyromane par rapport à cette notion de réconciliation.
Donald Trump.
Bah oui.
Non, parce que le journaliste de Fox News hier, Chris Wallace, a tenté de lever une ambiguïté que maintient un petit peu Donald Trump depuis quelques